Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est l'heure du journal de la culture, 10h28. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Journal qui débute évidemment par les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron en faveur de la culture.
Et oui Philippe, on va revenir sur les principales annonces du président de la République. Alors voici les premières orientations de ce plan pour la culture. Le droit des intermittents du spectacle sont prolongés jusqu'à fin août 2021. Je rappelle que le régime des intermittents concerne 100 000 artistes et techniciens indemnisés chaque année. Un soutien financier pour les festivals, notamment pour les petites structures. Un fonds d'indemnisation pour les séries et tournages annulés suite à la crise sanitaire. L'indemnisation se fera au cas par cas. Le président souhaite a lancé un grand programme de commandes publiques pour les artistes de moins de 30 ans. Il souhaite, je cite, mettre le paquet pour les métiers d'art, les spectacles vivants, la littérature, les arts plastiques. Annonce également d'un été apprenant et culturel. Il appelle les artistes à partager leur savoir avec les élèves et dès ce mois-ci dans les établissements scolaires. Franck Riester, le ministre de la Culture, a annoncé 50 millions d'euros d'aide pour le Centre National de la Musique, organisme créé en janvier pour soutenir ce domaine. Alors, dès le 11 mai, on le sait, ouverture des petits musées, disquaires, galeries d'art. Pas de date pour le moment pour les salles de concert et salles de cinéma. Et concernant les théâtres, Emmanuel Macron affirme qu'ils doivent commencer à fonctionner pour que les équipes puissent reprendre leurs répétitions. Il fera un point fin mai, début juin, afin d'envisager le retour du public. Alors toutes ces annonces ont fait réagir évidemment le monde de la culture. Stéphane Bern se dit très inquiet pour le patrimoine qui n'a été évoqué que très brièvement. Jean-Michel Ribe, le directeur du théâtre du Rond-Point, se dit sidéré. Pour lui, il n'y a rien de concret. Il pose ses questions. Qu'avons-nous appris, inventé, mais dans quel cadre? Que nous donne-t-il comme autorisation? L'acteur Philippe Torreton est totalement pour rapprocher l'école et la culture. Jean-Marc Dumonté, quant à lui, propriétaire de plusieurs théâtres parisiens, a salué ce soutien à l'intermittence. Franck Riester a assuré hier soir qu'il y aura des plans de relance et que le monde de la culture sera protégé par les mesures du gouvernement.
On continue sur Journal Hélène avec un premier bilan des pertes économiques suite à l'annulation des festivals en France.
Alors c'est une estimation provisoire qui n'est pas exhaustive car le nombre d'événements annulés n'est pas encore définitif. Mais cette étude est initiée par le réseau France Festival. Les pertes économiques vont jusqu'à 5,8 milliards d'euros. Alors entre avril et août 2020, 2640 festivals de musique ont été annulés. 4000 pour l'ensemble du secteur festival, ce qui représente selon l'étude 26 millions de festivaliers.
C'est malheureusement officiel, la Biennale de la danse à Lyon n'aura pas lieu.
L'événement devait se dérouler du 11 septembre au 2 octobre. Il a été reporté en mai-juin 2021. La directrice se dit soulagée. Elle évoque une décision positive et responsable. La Biennale de la danse est habituellement le rendez-vous de la rentrée de la Ville Lumière. Un rendez-vous qui met en avant la création chorégraphique internationale. Dans le contexte actuel, il était trop compliqué pour les artistes de se déplacer.
Et puis on va passer à un comédien, mais qui lui va sûrement vivre une expérience hors du commun, mais pas tout de suite. C'est Tom Cruise. Il va tourner un film à bord de la Station Spatiale Internationale.
Et oui, ce n'est pas une blague, Philippe. Il s'agit donc de Tom Cruise. La NASA a confirmé cette information sur Twitter. D'ailleurs, l'agence spatiale américaine est très enthousiaste à l'idée de travailler avec l'acteur. Projet ambitieux, mais qui pourra, comme l'indique la NASA, inspirer une nouvelle génération d'ingénieurs et de scientifiques. Selon le site Deadline, ce ne sera pas un nouveau volet de la saga Mission Impossible. En tout cas, c'est le premier long métrage tourné dans l'espace.
Et on termine ce journal avec de la musique. Vous avez la date de sortie du nouvel album de Lady Gaga.
Où l'on retrouvera entre autres ce tube, ma chanson du confinement, Philippe, Stupid Love. Ouais. Voilà, je vous le dis. J'ai envie de dire, enfin, le sixième album studio Chromatica de Lady Gaga était attendu le 10 avril. La sortie a été décalée suite à la crise sanitaire et Lady Gaga a annoncé hier la nouvelle date. Ce sera le 29 mai prochain. Un nouveau disque avec de très belles collaborations comme Elton John ou encore Ariana Grande. La précommande de l'album est déjà disponible.
Merci beaucoup Hélène. À demain. Dans un instant, nous recevrons le comédien Mathieu Amalric. Mais d'abord, je voudrais saluer la disparition d'un immense musicien et créateur. créateur, c'est Florian Schneider. Il est mort à 73 ans d'un cancer foudroyant. Florian Schneider était le cofondateur avec Ralf Hütter du mythique groupe Kraftwerk, groupe qui existe toujours, pionnier dans les années 70 de toute la musique électronique actuelle, de la techno à l'électro, en passant par la house. Les premiers vocodeurs qu'on entend partout désormais, c'était chez Kraftwerk, comme le premier clip tout en images de synthèse ou les projections en 3D. Je vais raconter un petit souvenir personnel que vous avez entendu sur l'antenne d'Europe 1, un souvenir qu'on m'a partagé il y a 2 ans. Kraftwerk et Ralf Hütter m'avaient autorisé à faire un remix d'un de leurs titres pour en faire le générique de l'émission Village Média, ce qui, à ma connaissance, était une première. Et vous entendez ce son unique, les Allemands de Kraftwerk étaient et sont la référence pour tous les producteurs et ingénieurs du son du monde. Ils ont influencé des générations de musiciens, des rappeurs, jusqu'à Daft Punk, en passant par David Bowie et le monde du funk, pour situer l'immense Prince ne samplait jamais aucune musique sauf Kraftwerk. Kraftwerk a chanté l'atome, les autoroutes, l'ordinateur pour tous et même les top modèles, bien avant que ce soit à la mode.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Mathieu Amalric.
Bonjour Philippe.
Quelle voix, vous êtes cinéaste et comédien, figure double des films de Dépêchin, vous avez déjà obtenu 3 Césars, meilleur espoir, comment je me suis disputé ma vie sexuelle, c'est le même titre, meilleur acteur pour Roi et Reine, puis le Scaphandre et le Papillon, vous a également vu dans Le Grand Bain. Coup sur coup, vous êtes dans 2 séries télé, Le Bureau des Légendes et une série qui démarre en ce moment sur Arte, mini-série en 4 épisodes, L'Agent Immobilier. En dépit du titre, je l'ai dit, on est plus proche de Kafka que de Stéphane Plaza. Qui est votre personnage, Olivier?
Ah, oui, c'est pas tout à fait Plaza, il est un tout petit peu moins efficace. Et ben, c'est-à-dire que, oui, il s'occupe de logements et de maisons, mais lui-même n'a pas d'endroit où dormir. Donc il dort dans les endroits qu'il est censé louer ou vendre, c'est quand même emmerdant.
On va entendre la bande-annonce avant de rentrer un peu plus dans le détail.
Vous êtes venu écouter le testament de ta mère, tu sais que c'est le genre de chose qui prend du temps.
Ça va pas être si compliqué que ça, maman n'avait rien.
Ta mère possédait un immeuble à Paris.
J'ai hérité d'un immeuble, avenue du Général Brunet. Et j'envisage de le vendre.
Je vous en donne 5 millions.
Et pas de locataire.
Non, les choses se compliquent un peu avec la locataire.
Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à virer une vieille?
Je vais nulle part, vieille chienne. C'est mon immeuble. Je vais y rester jusqu'à ce que vous dégagiez.
J'ai le droit de parler, papa. Je suis en plein dans ton éloge funèbre.
Excusez-moi, c'était un appel important. C'était le président de la République qui voulait rendre un hommage aux défunts.
C'est complètement dingue, il est divorcé, il a une fille unique en pleine crise d'ado, votre papa c'est Eddie Mitchell, retraité alcoolique, qui claque et son fric en jouant au poker, il a même joué sa canne, votre maman vient de mourir, vous découvrez que vous héritez d'un immeuble, sauf que l'immeuble n'est pas un cadeau. Alors ce qui est dingue, c'est que c'est à la fois complètement absurde et totalement réaliste.
Oui, c'est le monde d'Edgar Keret, qui est un écrivain israélien extraordinaire qui écrit des nouvelles de 3 pages, où tout d'un coup vous partez en effet d'une poisse du quotidien, à quelque chose d'absolument pulsionnel, fantasmagorique, où les temps peuvent, par exemple, se chevaucher. Soudain, naturellement, vous êtes dans votre passé. Il y a un poisson rouge qui exauce des vœux. Et ça semble être ça, ce qui est normal. Ce qui est vrai quand même, lorsqu'on pense à tout ce qui nous arrive dans la tête, surtout en ce moment avec le confinement, où il nous en arrive des choses dans la tête.
Ce qui est complètement fou, c'est que ça part d'une histoire vraie, c'est que le papa d'Edgar Keret est mort quand il avait 8 ans.
Oui.
Et il a découvert qu'il détenait un vieil immeuble Decathy dans un des quartiers les plus pauvres de Tel Aviv.
Absolument, c'est ça, c'est que... Ça commence un peu comme du Kafka, mais en plus burlesque quand même. C'est quand même un peu comme After Hours de Scorsese, vous voyez, où il y a des successions de catastrophes comme ça. Et on arrive au bout d'un moment à quelque chose qui est en effet le cœur de la raison pour Edgar et Shira d'avoir fait ce film. C'est la réparation, je sais pas, un retour aux parents, à d'où on vient, et ça devient absolument bouleversant, et on s'y attend pas.
Et c'est pour ça, ne racontez pas tout, ne spoilez pas tout.
Non, c'est tout.
C'est pour ça que vous avez dit oui. C'est pour ça que vous avez été séduit par ce rôle.
Edgar, c'est quelqu'un que je lisais depuis la fin du siècle dernier, vous voulez. C'est un écrivain. Et quand tout d'un coup un écrivain vous propose d'être un personnage de son monde, mais vous vous rendez compte? Et c'était à la fois extrêmement physique, parce que ça j'adore, c'est des cascades, des chutes, il y a déjà un plâtre, il faut arriver à être très adroit que de la main gauche, il faut tous ces acteurs extraordinaires autour de moi, et puis Eddie en
ah oui.
papa, quoi.
Eddie Mitchell, vous le connaissiez pas?
Mais non. Ben je le connais, il fait partie de ma vie. C'est-à-dire, je le connais parce que la dernière séance a formé mon envie de cinéma.
Ouais.
Et que ses berceuses, sa voix douce, qui correspond pas du tout à son corps, m'a donné envie d'être amoureux, si vous voulez, de faire des aubades.
Ouais.
J'ai essayé, ça marchait pas, mais bon. Et puis, Eddie, il va pas se faire chier à être avec des gens avec qui il a pas envie d'être.
Ouais.
Et donc, s'il a eu envie d'être avec nous, oh. Et ça, c'est une des joies des promos, c'est qu'on entend, on se dit des trucs qu'on se dit pas dans la vraie vie. Et là, j'entends Eddie dire, oh ben, ouais, je suis venu parce que j'aimais bien ce mec. Et là, tu te dis, oh, chouette alors.
Et puis, j'ai appris quelque chose dans l'agent immobilier, c'est qu'en chinois, crise et opportunité, c'est le même mot. Je me dis, tiens, on est en train de vivre le coup. On est en train de vivre le confinement à cause des Chinois. Autre chose, la cinquième saison du Bureau des Légendes s'est terminée lundi. Et le moins qu'on puisse dire, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est que ça ne fait pas des heureux. La fin, les réseaux sociaux se sont déchaînés. Vous avez vu ça, Mathieu Amalric?
C'est vrai? Non, pas du tout.
Oh
là, je ne suis pas réseaux sociaux.
Attention, tenez-vous.
Mais de quoi?
Tenez-vous. Une catastrophe industrielle, ces deux derniers épisodes. Que du gloubi-boulga psychologique à l'eau de rose, écrit l'un. Un désastre qui confine au ridicule quand Star Wars est pas si chez un autre. D'une lourdeur, cette fin de saison, le cliffhanger final qu'on sent arriver. Grosse déception pour ces deux derniers épisodes du Bureau des Légendes, sans rythme, sans adrénaline, sans queue ni tête. Bidon, c'est le dernier que je cite. Audiard a tout niqué et a fait perdre sa substance à la série. On a entendu dans le journal des médias Éric Rochon défendre Jacques Audiard. Votre réaction sur les deux derniers épisodes? Est-ce qu'Audiard a tout niqué?
J'avais pas suivi. Alors moi, j'y suis pas dans les deux derniers épisodes. J'ai pas eu la chance de tourner avec Audiard puisque Gigia s'en va à la fin de la 8. Mais moi, comme spectateur, j'ai senti quelque chose qui approchait de la tragédie grecque. Et ça m'a absolument bouleversé. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui vous ramène au premier épisode de la saison 1. C'est-à-dire, un couple, un amour, une trahison. Et oh, c'est quand même absolument fulgurant. Oui, bien sûr, il y a la patte d'Audiard qui amène quelque chose d'extrêmement intime. Mais moi, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé.
Ouais. Vous savez quoi ?
Mais certainement que ça doit être insoutenable pour les amoureux du Bureau des Légendes de voir le Bureau des Légendes, le bâtiment comme ça, détruit. C'est aussi quelque chose d'extrêmement personnel. Il y a Éric Rochon qui s'en va.
Ouais.
Donc qu'est-ce qu'il laisse derrière lui?
On verra. Et Jacques Audiard?
Je trouve ça passionnant. Et puis de toute façon, qu'il y ait un rapport aussi extrême dans ses réactions, c'est très très bon signe, ça.
Comme disait je ne sais plus qui, il n'est pas assez intelligent pour avoir des ennemis. Merci beaucoup Mathieu Amalric. Vous êtes
à
l'agent immobilier, mini-série en 4 épisodes sur Arte. C'est à partir de ce soir sur Arte en linéaire, mais c'est déjà en entier sur arte.tv. Merci encore, grand moment.
Merci à vous.
Culture Média qui continue dans un instant. On va parler musique, notre premier indispensable du jour avec Angèle Châtelier. C'est tout un programme, The War on Drugs.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le premier indispensable du jour avec Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Philippe.
Alors avec vous Angèle, c'est la musique et elle fait du bien. Qu'est-ce qu'on écoute? Question simple.
Eh bien à J, je ne sais plus combien du confinement.
Alors, moi j'ai regardé.
On en est à combien?
Comme le pastis, 51.
Facile à retenir pour aujourd'hui. Alors je me suis dit, tiens, il ne serait pas l'heure de planer un peu? Et je connais votre appétit Philippe pour le rock indie. Alors voici The War on Drugs. The War on Drugs, groupe de rock américain, 85 millions d'écoutes sur ce titre Red Eyes sur Spotify. Alors The War on Drugs est emmené par Adam Grand du Ciel qui pour certains est un descendant de Bruce Springsteen. Alors vous entendez sûrement The War on Drugs. C'est une musique avec plein de nappes de sons, ouais, de synthétiseurs qui se superposent. Une voix avec de la reverb, ce procédé qui permet de mettre de l'écho, un peu comme si les chanteurs étaient dans une église. Et c'est ça qui donne ce côté planant, comme sur Strangest Thing, extrait du dernier album du groupe.
C'est beau ça. C'est quoi l'histoire du groupe The War on Drugs ?
Alors pour bien comprendre, il faut revenir en 2005. C'est là où Adam Grandoussiel, dont je vous parlais actuellement, le leader, rencontre Kurt Weill. Tous les deux, ils sortent un premier album sous le nom de The War on Drugs, mais ils ne sont que trois. Et dans la même année, Kurt Weill s'en va pour se consacrer à une carrière solo. Adam Grandoussiel fait donc appel à d'autres musiciens pour faire sa propre musique. Il voulait son propre son, celui qu'on entend, qui est très cosmique. D'ailleurs, il s'était confié au journal Le Monde à ce sujet. Il disait que ça avait été difficile pour lui d'apprendre à jouer sa musique, enfin l'assumer surtout. Et en même temps, il a une réputation de musicien un peu ermite, un peu sauvage, solitaire. Il y a eu au moins trois formations différentes de The War on Drugs en 5 ans, mais alors leur dernier album est l'un des plus aboutis et c'est l'un de leurs plus beaux.
Donc, je me doute s'ils vont, ils vont sortir un nouvel album et c'est pour ça que vous en parlez.
Alors non, c'est pas forcément prévu.
Bim, dans ta face.
Même si je pense qu'ils y travaillent, hein, mais je vous en parle. Parce qu'on l'a bien vu depuis le confinement, des milliers d'artistes font des concerts depuis chez eux. Et puis d'autres enregistrent chacun leur partie et ils mixent tout ça après. C'est ce qu'a fait The War on Drugs dans une session de 14 minutes disponible sur YouTube. Et c'est fou parce que c'est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'ils étaient vraiment les uns à côté des autres.
Merci beaucoup Angèle Châtelier, à bientôt. On va se quitter sur War on Drugs.
Oui.
War on Drugs.
War
on se quitte
Drugs
en musique
avec le titre Pain. À très vite sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Second indispensable du jour avec vous, Louise Bernard, bonjour.
Bonjour.
Votre indispensable, c'est Blanche Gardin. On peut voir deux de ses spectacles en ligne. Mais je veux dire, la raison pour laquelle je veux qu'on en parle, c'est que depuis le début de cette émission, depuis la rentrée de Culture Média, chaque fois qu'on a demandé à nos invités leur humoriste préféré du moment, le nom qui revenait le plus, voire systématiquement, c'était Blanche Gardin.
Ouais, cette chronique, elle aura jamais mieux porté son nom. Blanche Gardin, c'est vraiment devenue une indispensable dans le milieu de l'humour. Trois spectacles à son actif depuis son passage par le Jamel Comedy Club. C'est là qu'elle s'est fait connaître. Et dès son premier seul en scène, elle marque les esprits et pour ses deux spectacles suivants, elle est récompensée. Pour chacun, elle obtient un Molière de l'humour largement mérité.
Et c'est au Molière qu'elle avait fait un sketch très drôle qui taclait, ouais, sans les nommer, les défenseurs de Roman Polanski qui prônent la séparation de l'homme et de l'artiste.
Exactement. En fait, elle trouvait bizarre que ça ne s'applique qu'aux artistes. Vous savez, cette séparation, on ne dit jamais d'un boulanger, oui, ok, il viole des enfants dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Et puis tout ça, elle le dit avec un petit sourire et un regard innocent, mais ravi quand même de bousculer le public. Et c'est ça, le style de Blanche Gardin, qu'on apprécie encore plus en longueur. Il faut la voir pendant ses spectacles, immobile, droite comme un i face au spectateur. Elle part dans un monologue d'une heure et demie, sans vraiment faire de pause. Elle ne rit pas avec le public, mais lui rit énormément. C'est la puissance du texte et ça suffit largement. Elle reste dans son personnage jusqu'au bout, à tel point qu'on se demande si c'en est vraiment un. Alors elle se décrit comme une femme blanche hétéro, la quarantaine, sous anxiolytique. Ça ne l'empêche pas d'être ravie que le public vienne la voir sur scène.
Ça m'a rempli de joie. Non, c'est vrai, ça m'a fait très plaisir. Ça compensera jamais le fait que mes parents m'aient jamais dit qu'ils m'aimaient, mais ça me fait plaisir. Non, parce que c'est vrai, c'est bien la reconnaissance dans le travail, hein. C'est très important, c'est ça qui pousse à continuer, bien sûr. Mais ça serait tout à fait inauthentique de ma part de vous dire que tous vos rires ou vos applaudissements m'empêcheront de m'envoyer un litre de glace à la vanille ce soir et de me faire vomir après. Hein. Je veux dire, ça ne comblera pas le vide.
Ouais, et avec Blanche Gardin. Avec Blanche Gardin, un extrait de 30 secondes ne suffit pas. Elle continue de dérouler sa pensée avec le côté trash qui s'intensifie.
Non, parce que c'est facile à vomir la glace à la vanille, parce que c'est déjà liquide. Donc ça rentre, ça sort, c'est un petit tuyau pour les polémiques, s'il y en a ce soir. Il y en a toujours un peu. En Europe, il y en a. Enfin, moi, je me fais plus vomir en réalité. J'ai arrêté cette pratique parce que parce que je suis une adulte et que voilà, j'ai réalisé que c'était une aberration, bien sûr, de se faire vomir quand il y a des gens qui ont faim. Et j'ai jamais trouvé de solution techniquement viable pour envoyer mon vomi en Afrique aussi, donc j'ai cessé de me faire vomir. Ce qui fait que je suis toujours dépressive, mais j'ai un gros cul. Voilà.
Comme voilà. C'est bien écrit.
Exactement.
C'est dingue.
Alors ça, ce sont deux extraits de son deuxième spectacle, Je parle toute seule, qui est disponible sur Netflix. Ça n'est pas le plus récent, mais vraiment, il reste très actuel et il est aussi drôle que son dernier, Bonne nuit blanche, qui lui est disponible sur MyCanal.
Vous avez une préférence ?
Non, franchement, les deux sont jouissifs. Ils sont vraiment dans la même veine. Hein. Ça parle d'elle, beaucoup, de la société aussi, souvent avec un regard loin d'être bien pensant. Par exemple, quand elle parle de harcèlement de rue, elle dit que ça la concerne plus parce que quand t'es une femme après 40 ans, le harcèlement de rue, c'est juste des bons souvenirs. Ou alors, elle déteste les initiatives pour protéger les gens, comme les photos sur les paquets de cigarettes.
Cher, tout ce qu'on fait comporte des risques. À partir du moment où tu nais, c'est ce qui risque de t'arriver, de mourir. D'accord ? C'est pas pour autant qu'il faut foutre des posters de corbillards dans les salles d'accouchement. Il faut laisser les gens tranquilles à un moment. Tout ce qu'on fait comporte des risques. Dans ce cas-là, pourquoi choisir certaines activités en plus pour faire de la prévention et pas d'autres ? Dans ce cas-là, pourquoi on met pas des photos de noyés tout gonflés à l'entrée des plages ? On pourrait avoir ça quand même. Pourquoi on ne met pas des photos de femmes seules dans des grands appartements en train de pleurer en regardant par la fenêtre sur les boîtes de pilules ? On pourrait. Bien sûr. Ou des photos de prison à l'entrée des mosquées. Tout ce qu'on fait comporte des risques. C'est... Ou des photos d'Harvey Weinstein tout nu sur les plaquettes des cours Florent. Bon, on pourrait avoir ça.
Voilà, Bonne nuit blanche est à voir sur MyCanal et le précédent Je parle toute seule sur Netflix. Blanche Gardin, indispensable, je vous l'avais dit.
Et je confirme. Merci beaucoup Louise Bernard, à très très vite.